Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes au lendemain du discours du 5 décembre de Éric Zemmour à Villepinte. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbock. J'ai envie de dire bravo, bravo au candidat Éric Zemmour pour son discours. Extraordinaire, enthousiaste. Et moi, je suis, comment dirais-je, enthousiaste, oui, parce que d'abord, je suis quelqu'un qui a fait une thèse sur le discours publicitaire, en l'occurrence, ce qui n'a pas beaucoup de, comment dirais-je, parce qu'ensuite, c'est le sous-titre qui compte dans une thèse, puisque c'est un essai sur l'institutionnalisation du discours. Voilà, l'institutionnalisation du discours publicitaire, mais partant de là, on arrive à voir comment un discours se fabrique. Et puis, de toute façon, je viens d'une tradition communication, dont sciences du langage et sémiologie et tout. Et les éléments du discours, c'est quelque chose qui va me passionner ici, dans ce discours d'Éric Zemmour, puisque le contenu lui-même, comme on dirait dans le jargon, ce sont les faits d'énonciation, ou alors c'est l'énonciation qui va m'intéresser, plus que les énoncés. Quand je parle des énoncés, je pense au programme lui-même, c'est-à-dire les éléments programmatiques sur lesquels tous les autres candidats vont revenir et qui seront plus pertinents à analyser lorsque il y aura confrontation des idées. À ce moment-là, les choses apparaîtront un peu plus claires. Là, pour le moment, chacun égrène son programme, ce qui est très bien. Et puis, bon, il y aura le temps de parler de ça. L'élection, c'est très long, c'est très long. Alors, on avait dit qu'il fallait faire attention. La mue, le candidat, enfin, Zemmour, polémiste, comme il disait, ne devenait pas candidat, il ne faisait pas candidat, il n'était pas crédible comme candidat parce qu'on le regardait avec les yeux de polémiste. Et c'est souvent ce qui change dans l'élection, c'est-à-dire qu'il y a le moment où vous êtes copain, ami avec tout le monde, vous parliez hier, vous avez pris un pot il n'y a pas longtemps, et donc vous le voyez toujours comme votre copain. Surtout les journalistes, qui continuent à voir Éric Zemmour comme leur copain. Et donc, il n'était pas convaincant dans cette posture-là. Il ne pouvait pas être candidat, ce n'était pas crédible. Sa personnalité, son passé, ces éléments qu'on a grossis. Et là, surprise, on a eu un homme politique en face de nous. Pourquoi? Tout simplement parce que dès lors que vous avez fait la déclaration de candidature, les choses changent. Les choses changent. C'est une magie, hein, qui s'opère. La déclaration de candidature apporte donc cette puissance institutionnelle et fait déjà de vous un président de la République potentiel. Et ça change tout. Immédiatement. Dans l'esprit des gens, dans la façon de vous regarder, vos gestes ne sont plus interprétés comme ceux du copain d'hier avec qui on a pris un verre ou avec qui on s'est engueulé. Non. Maintenant, vos gestes sont interprétés à la dimension du poste que vous convoitez, si on veut, ou du mandat, puisque en l'occurrence, il faut parler de mandat. Et la mue s'est faite. Automatiquement, il a suffi qu'il déclare la candidature. D'ailleurs, la déclaration de candidature, elle arrivait d'une façon, je vais dire, c'est vraiment un élément de stratégie politique, parce que dans la stratégie politique, il y a eu un couac à Marseille, une femme qui l'a piégé, et il fallait faire ce qu'on appelle le damage control. Donc, il faut contrôler, enfin, le doigt d'honneur. Il fallait contrôler cette histoire-là qui s'est passée, et ça, il faut le faire très vite. Comment le faire très vite? Quelque part, cette femme, elle a précipité la déclaration de candidature d'Éric Zemmour et c'est très bien. C'est très bien. Vous savez, des fois, vous prévoyez, parce que cette femme n'est pas arrivée d'elle-même, elle a été envoyée. Vous prévoyez telle chose et puis il se passe autre chose. Et ou alors, vous attaquez quelqu'un. Vous êtes en offense, dans l'offensive, mais vous ne savez pas comment la personne va réagir. Et ça, voilà, c'est l'effet de surprise. Et là, Éric Zemmour, il avait très bien réagi parce qu'il y a quelqu'un qui a été piégé de cette façon-là, c'était Gordon Brown. Gordon Brown, quand il était candidat, il a perdu, enfin, à sa réélection. Il a perdu tout simplement parce que c'était pareil, une bonne dame de cette, je vais dire, du profil qui a piégé Éric Zemmour s'est présentée. Et là, ils ont eu un échange qui s'est mal terminé, enfin, où Gordon Brown est apparu comme un peu excédé. C'est qu'il n'était pas bien, on lui a reproché, il fallait qu'il revienne en arrière, qu'il aille à la radio, s'excuser, qu'il aille voir la bonne dame chez elle, etc. Mais le dommage était déjà fait, malheureusement pour lui. En termes de timing, c'était la fin de la campagne, donc il ne pouvait pas se rattraper. C'était foutu. Au dernier débat, il n'a pas pu assurer, voilà, il y avait ce truc qui gênait. Et donc pour Éric Zemmour, c'est très bien, c'est arrivé en début de campagne. Donc il avait largement le temps de réparer ce dommage, contrairement à ce qu'on disait, oui, le QI, c'est fini. Et on voit très bien que c'était une opération commandée, commando, et il a été piégé, il a été gentil. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et on va le ressentir dans la virulence du discours, qui est sans pitié pour les expéditeurs de ce type de manœuvre. Et donc moi, le discours, il m'a intéressé d'un point de vue vraiment politique, stratégie politique, marketing politique même, d'un point de vue, parce que la stratégie politique fait partie du marketing politique, ok, du point de vue de la rhétorique, hein, et puis du point de vue de ce qu'on va appeler la critique de la civilisation. Ah voilà, ça j'ai. On a dit que ça manquait, la réflexion sur la civilisation. Et donc Éric Zemmour a répondu. Tout son discours était une critique de la civilisation actuelle dans laquelle nous vivons et qui, depuis 30 ans, fait l'objet des critiques. Mais personne ne l'écoute. Alors, sur le plan, comment on va dire, conventionnel, l'ouverture du discours, on salue tout le monde, je vous remercie, vous voyez, les codes, le discours est codé, hein. Je vous remercie d'être venus, mes amis, ça c'est les formules, vous êtes 15 000 personnes, ça c'est déjà une démonstration de puissance, 15 000 Français qui sont venus pour réagir contre le politiquement correct, et la gauche, la haine des immigrés, en fait, le fait de ne plus baisser les yeux, votre détermination à vous tenir debout. En fait, on commence déjà à caresser le peuple dans le sens du poil. Bien sûr, on ne convainc que les convaincus, et ils sont convaincus. Et ceux qui viennent dans les meetings, ils sont déjà convaincus. Mais il faut. C'est comme la guerre. Il faut. Ça devient des soldats qu'il faut. Comment on va dire? Il faut booster le moral, il faut stimuler, il faut donner de l'enthousiasme à ces soldats-là. Et il leur dit, dans les conventions de la politique, ben, pourquoi je vous ai invité? Ça, c'est l'accueil. Je vous ai invité parce que nous avons des hommes politiques qui ont failli depuis. Donc, en gros, il dit réparer les innombrables erreurs qui ont été commises depuis 40 ans. Vous voyez? Et surtout, il leur précise que ça devait être une formalité pour Macron de gagner. Mais malheureusement pour eux, il y a le grain de sable Éric Zemmour qui est arrivé et qui a grippé la machine. Et il fait quelque chose de bien, c'est qu'il leur dit bien, vous, si on m'attaque, c'est vous qu'on attaque. Et vous, c'est moi, moi, c'est vous. Donc l'identification est faite, la connexion est faite, le discours peut partir sur. Le fait que ça fait toujours partie de toute la stratégie du début du discours, franchement, il leur dit quand même quelque chose de sérieux. Nous devons rompre le pacte tacite entre tous les acteurs de cette farce, c'est-à-dire la farce qui consiste à préélire quelqu'un à venir jouer devant vous une comédie qui a déjà d'une opération qui a déjà été ficelée en arrière. Donc c'est bien de dire déjà ces choses-là parce que ça fait depuis longtemps qu'on a remarqué qu'il y avait une pré-entente entre les gens et que la démocratie était déjà grippée. Mais jusque-là, quand vous êtes hors du système, vous ne pouvez pas être crédible. Vous voyez, les éléments de crédibilité de Zemmour, il va les dire après sur sa personnalité, notamment en mettant devant l'argument qui est le plus convaincant, c'est-à-dire sa sincérité. On ne peut pas douter de sa sincérité. On ne peut pas douter de son courage, de son panache, de son audace, de son ardeur, de sa détermination, c'est-à-dire toutes les qualités qu'il a transféré au public qui est venu le voir pour dire vous avez tout cela, le courage, le panache, l'audace, l'ardeur, la détermination, tout ce qu'il faut pour combattre la régression française de ces 30 dernières années et la disparition programmée de la France. Donc, ils ont pensé que le peuple avait disparu. Non, le peuple est toujours là, la preuve. Vous savez, on se disait il n'avait personne. Parce que quand on dit qu'il n'a personne, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas les huiles qu'on connaît avant qui participaient de la farce dont justement la farce qu'il a dénoncée. Et donc, ces gens-là, toutes ces huiles-là sont d'office discréditées parce qu'elles participaient à une farce. Vous voyez, c'est très stratégique. Et ensuite, il énumère c'est un peu les ennemis. Ce discours, c'était le discours du général Zemmour. Moi, je l'appelle Napoléon Zemmour. C'est vraiment le discours d'un général qui appelle les troupes. Bougez-vous, voilà. Il y a quoi ? Il y a les journalistes qui veulent sa mort sociale. Il y a les politiques dont il dit qu'ils ont participé à une farce depuis 30 ans, farce électorale, qui veulent sa mort politique. Et il y a les djihadistes qui veulent sa mort tout court. Bon, ça veut dire que si on veut la mort d'Éric Zemmour, c'est qu'on veut aussi la mort du peuple français. Et toute cette identification a créé une osmose tout de suite avec le public, et avec ça, on les accuse, donc maintenant ce n'est plus lui, et c'est plus lui, c'est vous, on les accuse, comme on l'a accusé lui, d'être fasciste, incroyable, d'être misogyne, d'être raciste, toutes ces choses-là font que, ça va confirmer après ce qu'il dit à la fin, en disant que il y avait un diktat de la pensée qui stigmatisait les gens et les accusait de ci, de ci, de ça. Et dès qu'ils vous discréditaient, vous étiez discrédité d'office. Donc, critique de la civilisation. Et là, il leur dit, et c'est un peu la mission qu'il leur donne, qu'il faut sauver la France. Il faut sauver la patrie, il faut sauver la civilisation, il faut sauver la culture, il faut sauver la littérature, il faut sauver l'école, il faut sauver le patrimoine et le paysage français, il faut sauver l'héritage français, il faut sauver la jeunesse française. Oh, quel programme! Donc c'est une bataille, il les appelle à une bataille. Et pour cette bataille, il a besoin, comme il dit, il a besoin des braves, la bataille des braves. C'était un superbe discours, puisqu'après, il ajoute toujours dans les ressorts qui font qu'il ait pris la décision de se présenter, il ajoute que la France est victime d'un grand déclassement et d'un grand remplacement. Donc, ceux qui sont, c'est un peu l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est de lutter contre le grand déclassement et le grand remplacement et le déclin de notre puissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous savez déjà quelle est un peu la mission, quels sont les ennemis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme il a dit, nous partons à la reconquête de notre pays. Il faut aller reconquérir le pays. 40 ans de roublardise politique et de langue de bois politique de tous les acteurs, ça suffit. Donc ça suffit. Et pour aller plus loin, toujours dans la civilisation, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une civilisation du présent, vous voyez, il n'y a plus de mémoire, il n'y a pas d'héritage, sauf en forme de perroquet ou alors de commémoration chorégraphiée d'avance depuis 30 ans. Alors, il dit qu'il refuse de choisir entre les souvenirs d'hier, les enjeux du présent et les défis de demain. Ça veut dire qu'il lit la civilisation dans son cycle, c'est-à-dire passé, présent, futur, etc. Comme un peu George Orwell disait, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Voyez? Donc c'est ce cycle-là qui fait que en décrivant, on a vu qu'il y a eu comment on va dire? Un incident, mais une opposition dans le fait qu'il ait dit que Pétain avait sauvé les Juifs de France et les autres ont dit non, 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 il a vendu tout le monde et tout. Vous savez, celui qui contrôle l'histoire, qui l'écrit, contrôle forcément la vision de demain, contrôle le futur. Et quelque part, il contrôle aussi le présent, bien évidemment. Et ça fait que si l'histoire est fausse, le futur, ça donne une fausse boussole au futur parce que les gens sont on va dire mal appris, comme Bayrou disait, mal informés de ce qui s'est passé. Donc, contre ce grand déclassement, contre ce grand remplacement, contre cette façon de penser la civilisation en oubliant les souvenirs et qui sont justement ceux qui nous permettent d'avancer, c'est-à-dire on oublie notre carburant. Et là, en oubliant, en faisant fi des défis de demain, faisant comme si c'est le présent qui compte et demain sera pareil, c'est une forme, comment on va dire ça, quand vous êtes dans ce genre-là de vie où le futur est déjà écrit dans le présent, c'est une forme de désespérance, comme il dit, ça installe le désespoir, non, ça supprime tout ce qui est folie créatrice, ça supprime tout ce qui est prise de risque. Non, il faut rester dans un conformisme niais et terrible, les choses étant ce qu'elles sont. Vous voyez un peu, on ne peut rien faire. Donc, le programme, le plan, déloger les élus de la gauche partout. Parce que les socialistes sont devenus des macronistes, les macronistes sont devenus des écologistes, et les écologistes sont devenus des islamo-gauchistes. Voilà, donc il appelle ça les machines infernales qui font que la France est où elle en est. Bon, après, le programme, hein, serait industrialisation de la France, bien sûr. On ne peut pas être contre réindustrialiser, relancer l'industrie française, parce que c'est derrière cette industrie reflétait le génie français. L'école, alors des choses extraordinaires sur la critique de l'école telle qu'elle se passe, telle que c'est. Moi, j'ai vu ça, j'ai toujours dit, hein, moi, je suis heureuse parce que j'ai rêvé que quelqu'un puisse dire ces choses-là. Et les points forts sur les programmes, si on peut retenir, enfin, les grands marqueurs, la réindustrialisation qui va avec la revalorisation du travail, l'école. Voilà. Et puis la nouvelle politique étrangère, parce que la nouvelle politique étrangère est sociétale, l'assimilation. La nouvelle politique étrangère dit que la France doit cesser d'être le valet de l'Union européenne, le valet de, je rigole, de l'Amérique, le valet de l'OTAN. Alors il va sortir de l'OTAN, du commandement de l'OTAN. Waouh! C'est un discours puissant. Il va immigration zéro. Bon, pour l'immigration, on va pas trop en parler. Parce que ça, c'est des choses qui vont. J'ai dit, je vais pas parler sur les énoncés, je parle sur l'énonciation, comme on dit. Et je regrette parce que j'avais des étudiants, quand j'allais là à l'université, je leur avais parlé de la communication comme dispositif énonciatif. Et là, c'était un modèle sublime et superbe pour ce discours de Zemmour, pour leur montrer ce que c'est que. Un dispositif énonciatif qui est comment se fait sa structuration. Hein? Donc on a tout ce qui était rhétorique, on a les éléments de la critique de la civilisation en règle, parce que si on parlait de programme, on les aurait aussi. Puis on a l'assimilation. L'assimilation, c'est important. Non seulement ça reprend tout ce qui est dit sur l'école, parce que l'école, rendez compte, il n'y a plus de classement, il n'y a plus, il y a le fait que on a aligné, si vous voulez, le niveau scolaire sur l'élève moyen. Voilà, il n'y a plus l'excellence. Voilà, c'est même honteux de parler d'excellence, alors que de l'autre côté, on a des grandes écoles. Il y a une hypocrisie en fait. Ça apparaîtra dans les débats. Mais avant même d'arriver dans les grandes écoles, on commence déjà à niveler par le bas au niveau scolaire. Et ça, il a dénoncé. Il a dénoncé l'idéologie de mettre dehors l'idéologie LGBT dans les écoles, évidemment. Je ne sais pas où se trouve la manif pour tous, les acteurs, la manif pour tous, je les vois moins. Enfin, on les entend moins. Et bon, l'assimilation, c'est un choix exigeant, bien sûr, et que lui, il était fier d'être le compatriote, d'être devenu le compatriote de Montaigne, de Pascal, de Chateaubriand, de Balzac, bref, des Lumières. Et devenir cela, c'était un cadeau formidable de la France. Mais plus encore que donc cette affaire d'assimilation, ou derrière cette affaire d'assimilation, Zemmour veut nous faire ressortir la question très très tue de la filiation. Vous voyez, quand on commence avec les théories du genre, on a un peu oblitéré la question de la filiation. Or, en se présentant lui, non seulement il est sincère, mais il a aussi une mémoire. Il est aussi le fils de des Lumières. Il est aussi le fils. Il a des références qu'il pose comme autant de symboles et de marqueurs qui, en elles toutes seules, ces références, forment un projet, forment des projets. Il parle, il rappelle qu'il a été là, dans la même salle, il y a 30 ans, avec Giscard d'Estaing, avec Jacques Chirac, avec M. Bayrou, avec M. Juppé, pour parler des problèmes dont on parle encore aujourd'hui, dont il est obligé de parler aujourd'hui. Et il a d'ailleurs dit qu'il était obligé de monter au créneau parce que pendant longtemps, ça il l'avait dit sans la déclaration de candidature, pendant longtemps, il a émis des idées, il pensait que un homme politique courageux pourrait, je veux dire, s'appuyer sur ses idées, les récupérer et en faire un projet. Non, et on faisait toujours comme s'il y avait une cloison entre les politiques et le reste du monde, j'ai envie de dire. Donc pendant longtemps, il a espéré, et puis il n'a plus eu. Et son fils lui a demandé un jour: « Mais papa, ça fait 30 ans que tu fais les constats, il faut peut-être penser à passer à l'action. » Et oui, pourquoi pas, des enfants, hein. Comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, rappeler donc la filiation, rappeler d'où on vient, qui on est, comment cette filiation a évolué jusqu'à l'entrée de Jacques Chirac à l'Élysée en 1995. Sauf que, à chaque fois que la droite arrive au pouvoir, elle se soumet aux médias, aux juges, aux gens de gauche, et elle ne fait pas la politique de droite. D'ailleurs, et là, on rentre maintenant dans ce qui est, parce que la civilisation, on va voir d'abord, vous savez, c'est un peu un effet de vague, hein. Tantôt ça va être, la rhétorique va habiller la civilisation, tantôt elle va habiller tout ce qui est marketing politique, et tantôt ça va être l'inverse, c'est des vagues qui roulent, voilà, qui roulent et qui reviennent. Donc, l'anecdote sur Valérie Pécresse, avant d'arriver à Valérie Pécresse, d'abord Jacques Chirac, qui avait dit qu'il étonnera les gens par sa démagogie. Vous savez, le temps où on faisait les campagnes, on l'a appelé le grand menteur, sans croire à ce qu'on disait. On faisait des promesses et on disait: les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est ce qu'il disait. Alors, si Valérie Pécresse arrive aujourd'hui, là aussi, c'est les éléments de filiation, parce que les gens ont tendance à se présenter comme Macron s'est présenté. c'est-à-dire de façon comme des bandits, des grands voyous, ils sortent de nulle part, sans filiation, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de genre, ils sont ni hommes ni femmes, ni gays, ni straight, comme on dit. Là, non, Valérie Pécresse dit très bien quelle est sa filiation, c'est d'un côté Fillon, d'autre côté Jacques Chirac, et cette filiation, quand on dit Jacques Chirac, on va rigoler parce que, compte tenu de ce qu'il vient de dire, si donc elle relève, elle se réclame, ça, ça fait du bien, ça fait du bien, c'est pour les troupes, ça, il y a un moment dans le discours où le discours se fait léger, on plaisante un peu, c'est pas vraiment une pique, mais si c'est donc sa filiation qui est chiracienne, ça veut dire elle fera des promesses et tiendra pas. C'est son mentor, elle fera des promesses et tiendra pas. Et elle étonnera par sa démagogie. Alors là, Madame Pécresse répondra. Elle a peut-être répondu, je ne sais pas. Mais disons que ça fait partie du discours et ça fait surtout partie des éléments de persuasion qui permettent de montrer qu'à contrario, lui, Éric Zemmour, et nous qui sommes avec lui, il dit, nous promettons. Et nous tiendrons, contrairement aux autres qui ont promis pendant longtemps et ils n'ont pas tenu leur engagement. Donc, nous promettons et nous tiendrons. Nous nous engageons et nous ferons. Et ça, c'est un moment fort parce disons mes amis, que ceci sera notre serment de Villepinte. Le serment, c'est donc le serment de la sincérité qui correspond et qui fait corps avec le candidat. Alors à ce moment-là, puisque vous savez très bien, vous avez la feuille de route, hein, pour les soldats, pour les combattants, il faut se lever, il faut combattre, il faut s'engager, il faut lutter. Mais nous lutterons contre des idées. Nous n'allons pas faire contre des personnes, comme on a fait contre lui. Non, nous allons faire contre, là maintenant, il faut cibler l'ennemi de façon claire dans cette campagne. Parce que dans cette campagne, pour Éric Zemmour, quel est l'ennemi? Quel est l'ennemi? Il a disqualifié Marine Le Pen depuis parce qu'il invite ses électeurs qui n'ont plus de privé de droit de vote depuis. En fait, c'est parce qu'ils votent, bien sûr, mais ça ne sert à rien, puisque Marine Le Pen ne peut pas passer, elle est sclérosée. Même comme on a dit de Jacques Chirac, il était vieux et usé, c'est Jospin qui l'a dit, et Jacques Chirac l'a battu. Mais quand même, le vote Marine Le Pen, c'est un vote de musée. Donc, c'est comme si vous étiez privé de droit de vote. Il les appelle d'ailleurs, en termes de stratégie de marketing politique, de venir avec nous, parce que notre vote va compter. Et le nôtre, hein, très important, chez Zemmour. Et après. Dans la foulée, il appelle aussi les déçus des Républicains, les Républicains, oui, LR, côté Ciotti, de venir avec eux, parce que là, ils ont été privés de droite, carrément, parce que la droite, vous savez, c'est très cohérent son discours, elle était soumise à la gauche, ce qui est vrai, au diktat de la gauche à chaque fois qu'elle passait au pouvoir, et elle se retrouvait à faire soit de l'extrême droite, idiot, c'est-à-dire en tapant vraiment sur les immigrés d'une force, hein, soit des politiques de gauche. Donc on n'avait plus de droite, vraiment. Et en ce moment, Madame Pécresse et Madame Hidalgo vont avoir des problèmes. Parce que y a plus, et la différence entre la gauche et la droite classique n'existe plus. Bon, est-ce qu'il faut passer dans les extrêmes? Non, l'immigration aujourd'hui, il faut dédramatiser. C'est pas vraiment l'affaire qui permet de dire qui va dire qu'on est d'extrême droite. Non, s'il n'y a que ça, c'est insuffisant. Parce qu'après, il y a d'autres grands sujets qui ont été étalés, comme par exemple l'école, la réindustrialisation et tout ce qu'il a énuméré, qui sont des sujets de notre civilisation, notre littérature. C'est des choses qui ne sont pas d'extrême droite, comme on veut dire, qui n'ont pas de couleur politique. Il faut juste qu'il y ait une incarnation politique. Et ça, c'est ce qu'on oubliait en politique. Il fallait que la politique s'incarne d'abord dans des valeurs universelles, ou alors justes, ou alors sincères. Et en qui plus est des valeurs, comment on va dire, alignées sur le patrimoine, l'héritage de la France et sur son identité. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Éric Zemmour dit. Ça me gêne à rien, immigration zéro, ça, c'est pas un problème. À l'arrivée, on verra comment tout cela s'applique. Ça, c'est pas un problème, parce que derrière l'immigration se jouent aussi des questions de civilisation, bien sûr. Et on ne va pas combattre les personnes pour aller voir, par exemple, si Madame X, si Monsieur Zemmour a enceinté tel ou tel, c'est trop petit. On est là, on va lutter contre des idées. On va lutter contre, alors là, Macron, parce que Macron est vraiment, selon Zemmour, puisque déjà on avait prévu dans la farce que c'est lui qui succéderait, Macron est donc le porte-parole. On va lutter contre le système que Macron représente, parce que Macron est le porte-parole, le porte-drapeau et l'exécutant de ces systèmes. Donc c'est pas sa personne dont il dit, sa personne d'Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Ah voilà, ça commence là, c'est normal, on va partir en puissance. Voilà, en puissance pour démolir Macron, pas démolir, mais le démasquer. Et de démasquer, c'est-à-dire il n'intéresse, sa personne n'intéresse personne parce que il n'est fondamental, sa personnalité est fondamentalement inintéressante. Alors il faut, en termes de discours, argumenter et montrer en quoi cette personnalité est fondamentalement inintéressante. Alors personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Je cite Zemmour. Hein. Alors la dernière partie du discours, vous savez. Moi, quand je lis un livre ou un journal, je commence par la fin. Je commence par la fin. Je regarde l'introduction, je passe à la fin et puis je reviens et je lis même un article. J'ai tendance à faire ça, mais sauf que, bon, avec la cible, les articles du net ne s'y prêtent pas vraiment, mais les articles papier, oui, on va derrière, on revient, voilà, on fait l'aller-retour et puis on se lance. Donc, personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. On parle de Macron, c'est M. Zemmour qui parle de Macron. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique se cache, derrière la montagne d'idées superficielles, derrière le slogan d'idées contradictoires, genre en même temps, qui est synonyme de désordre et de quoi qu'il en coûte, synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. J'ai pensé à Hollande. Macron n'est rien. Il n'y a rien. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos existences, nos espoirs. Bon, il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul, le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant. Elle est tombée dedans. Il est temps de sortir le peuple de ce puits sans fond. Bon, qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est clair, parce qu'en 2017, quand il y avait les élections, j'ai crié, ne votez pas, machin. Et ça m'a valu tous les malheurs que vous connaissez, que je vous ai racontés, parce que une expédition en exil m'en est militari. Je suis en exil, bon, c'est bon, je suis au Cameroun, mais voilà. Et peut-être je me dis à un moment donné, dans la personnalité des gens, celui qui n'a pas connu d'exil n'a pas encore trouvé le chemin de la vérité. Oh, Macron, Macron, moi, quand j'entends ça, après que Hollande ait dit que Macron, c'était rien, et que Macron, il m'a insulté, traité de rien, je me dis, j'ai attendu ce moment. Vous savez, quand vous êtes injustement, pardon, injustement, la justice, prise pour cible avec des méthodes de voyous, oh, laissons tomber, comme Éric Zemmour l'a rappelé au tout début du discours, les femmes islamiques sont victimes, pas seulement islamiques, dans les cités, les femmes sont victimes de violences. Vous savez, si vous parlez, non seulement ils viennent fouiller dans votre maison comme ils veulent, si vous parlez Il casse votre voiture, il vous menace, il vous provoque et tout. Ils sont même prêts à attaquer à votre physique. Donc, si, il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne veut pas dire. Tout simplement parce qu'on ne s'attaque pas au problème. C'est vrai que là-dessus, sur la concentration des immigrés au même endroit, Madame Pécresse a dit des choses intelligentes sur le réaménagement urbain cassé. Hein, les cités, casser et reconstruire autrement et faire en sorte qu'il y ait pas plus d'une même communauté, pas plus de 30% d'une même communauté au même endroit. Faut qu'il y ait un brassage de tout ça qui fera qu'on n'aura pas, comme une femme le disait tout à l'heure, moi ça me choque souvent ça, des gens qui parlent arabe, qui occupent toute la rue à parler arabe, ou alors les Africains qui sont dans le métro et qui sont à parler leur truc là. C'est fondamentalement à côté des Français, c'est méprisant et ça met les gens mal à l'aise parce qu'on n'a pas appris aux immigrés à se tenir, on n'a pas codé les comportements. Et ça, c'est peut-être pas seulement la responsabilité des Français, mais c'est aussi la politique des visas. Comment se fait-il qu'il y a des espèces de sauvageons qui passent les visas? C'est pas possible. Alors, donc, quand M. Éric Zemmour parle, il faut déjà qu'il pense, qu'il sache que le premier dérèglement, c'est dans l'ambassade où on octroie les visas à n'importe qui. Bon, ils arrivent, ils n'ont pas les codes. Maintenant, arrivés là-bas, il faut les éduquer d'une façon. Et il faut, je ne sais pas si on peut rattraper cela, mais il y a des endroits où vraiment, ce n'est pas possible. Vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes plus en France. Et ça, c'est vrai. Donc, les immigrés eux-mêmes doivent faire un travail là-dessus pour ne pas prendre le téléphone. Vous voyez, vous êtes en train de, dans le métro, quelqu'un est à côté de vous, il téléphone tout le long du trajet, il parle, ses machins, tout ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Donc, ça, le système macroniste aimait bien cela parce qu'il y a un double jeu qui se joue. C'est qu'en haut, on vole, et puis en bas, on vous laisse aussi faire ce que vous voulez, comme ça, ils sont tranquilles en haut. Et Éric Zemmour rappelle à ses soldats, vous n'êtes pas là au peuple de France, vous n'êtes pas ici pour vous engager, pas vous engager pour la France. Et non pour vos privilèges, parce que c'est ça. Il a raison, beaucoup d'engagements politiques pour les privilèges ou pour les postes à chercher par la suite, parce que les choses étant ce qu'elles sont, chacun fait son marché, et puis c'est tout, débrouillez-vous, le système de tout ce bazar ne peut tenir que parce qu'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus d'avenir, il n'y a que le sauve qui peut. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique. Ça, c'est Zemmour qui parle en parlant de Macron. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. Oui, laissons-le avec son obsession pour lui-même, inlassablement. Nous allons nous débarrasser de cette idéologie hors sol qui ne vit que d'argent public et de journalistes militants. Tout à fait vrai. On dirait d'ailleurs qu'on parle du Cameroun ici ou de l'Afrique, hein, parce qu'ici, tout ce qui est riche, c'est de l'argent public et de journalistes militants. Idéologie hors sol. Personne ne sait, ne peut vous dire aucun Français quelle est l'idéologie de Macron, quelle est, ou plutôt quelle est sa pensée, parce qu'il n'a pas de pensée. Donc, oui, nous allons faire du macronisme un mauvais souvenir. Voilà, c'est-à-dire, la mission est claire, il faut qu'il s'en aille, le but est clair. Alors, quand ce fantôme aura quitté l'Élysée, quand la gauche aura perdu sa dernière marionnette, nous la remplacerons par la France. Voyez, vive la France, a dit le public. Oui, nous remplacerons le petit Macron par la grande nation. Ça, c'est du Chirac, ça, quand vous voyez, les gens ont des repères. Chirac avait fait campagne sur la France en grand. Nous remplacerons le petit Macron par la grande nation. Nous remplaçons le vide par l'identité. Nous remplacerons la suffisance par l'excellence. Nous remplacerons le dérisoire par l'histoire. Rien que par ce chapitre-là, remplacer le petit par le grand, le vide par l'identité, la suffisance par l'excellence, le dérisoire par l'histoire, la critique civilisationnelle est claire. Nous avons une société du spectacle qui joue sur le dérisoire et qui méprise l'histoire. Vous voyez? Donc forcément, si vous revenez sur l'histoire, bien évidemment, ce n'est pas la recherche que vous faites ou la vérité, vous faites du négationnisme. Donc a-t-il fini sur ce discours d'une heure, où vraiment je suis obligé de citer la fin parce que c'était excellent. On ne peut pas dire autre chose que cela. On voit très bien que c'est un écrivain qui écrit ce discours français. Alors voilà. Maintenant, c'est le président qui parle. Vous voyez, c'est le général Napoléon qui s'exprime. Français, je veux de l'enthousiasme. Je veux des chants. Je veux de la joie. Je veux de la fierté. Et je veux que vous soyez forts, que vous soyez joyeux, que vous soyez heureux, parce que nous avons une grande mission à faire, un grand projet, c'est ça le projet, reconstruire la France, qui est une tâche colossale, mais magnifique. Donc, n'ayez pas peur de la difficulté, il faut l'aborder avec enthousiasme, en chantant la fierté aux armes citoyens, etc. D'ailleurs, le public a compris, il a répondu. Nous avons les troupes, c'est-à-dire vous. Nous avons le plan, ce qu'il venait de dire. Nous avons la force, oui. Nous avons le courage, oui. Nous avons les idées, oui. Nous avons le projet et nous avons le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la cellule de commandement. Les idées, le courage, la force, ça c'est l'âme française. Les troupes, nous savons, la guerre, nous savons y faire. Donc si nous avons tout cela, ils ne pourront rien contre nous. La France est de retour. Voilà, donc reprenons notre destin en main. C'était un discours excellent parce qu'il faisait redire, le reprendre le discours en main. Ce sont les scientifiques que la France a, les travailleurs courageux, les écrivains, les innovateurs. La France est un pays unique au monde, c'est ce que nous tous on savait. Nous, quand, vous savez, ma génération, quand on venait pour ça, parce que c'était un pays unique au monde, pays des Lumières. On est tombé à un très mauvais moment, pile au moment où tout a basculé, où on a eu que des saltimbanques comme politiciens, ça a commencé par la gauche en 81. Alors la France, c'était un équilibre. Qu'est-ce qui fait son unicité? Équilibre entre la beauté et la force. Équilibre entre l'élégance et la vigueur, entre l'instinct de survie et de générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Parce qu'on pense souvent que s'il y a le génie, il n'y a que le sérieux lourd et tout, on ne blague pas, bon, ça ne va pas bien. Bon, mes amis, j'ai rêvé de voir ce jour où j'entendrai un homme politique dire ce que Éric Zemmour a dit, parce que moi, ça m'a pris pratiquement 20 ans en France, en dehors de mes 10 ans de thèse, je vais dire 25 ans, à me battre contre cela pour finir dans l'écroulement total. Et je me demandais si j'étais folle, si j'étais aveugle, si j'étais quelqu'un d'illuminé. Et quand j'entends Zemmour dire ces choses-là, pour moi, c'est bravo, bravo, alléluia! Dieu existe. Amis derrière le silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis à bientôt!